Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Après l'étape de Goma, la première ministre de la RDC est attendue ce samedi à Bunia en Ituri. Judith Souminois sera accompagnée de plusieurs ministres et parlementaires et pendant son séjour, elle va rencontrer différentes couches de la population pour évaluer l'état de siège instauré depuis plus de 3 ans dans cette province. À l'Assemblée nationale, quelques projets de loi de ratification des finances visant notamment à renforcer la mobilisation des ressources publiques et à lutter contre l'évasion fiscale ont été soumis hier. Le ministre des Finances qui les a défendus justifie ses initiatives par sa détermination à renflouer les caisses de l'État. Mateus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, est notre invité. Il revient sur la deuxième édition du comité de coordination des sites Kokosi élargi Maniema Sankuru Tchopo qui s'est clôturé le lundi 18 novembre dernier à Kindu. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Avant le développement de tous ces titres, d'abord cette nouvelle. Au nord Kivu, la cité de Sake, territoire de Masisi, se réveille dans la calmie ce samedi après de violents combats qui ont opposé toute la matinée hier vendredi les rebelles du 1-23 AFC à l'armée congolaise. Selon des sources locales, les rebelles ont attaqué les positions tenues par l'armée congolaise. Depuis aux environs de 2 heures du matin, les combats se sont concentrés autour des collines Vunano, Rutobogo, Kiuli et Kimoka. C'est sur les axes Sake Kiroche, Sake Mushaki et Sake Kichanga. Au moins 2 bombes de mortier sont tombées dans la cité de Sake, faisant 2 blessés parmi les civils. C'est autour de 13 heures locales qu'un calme précaire s'est rétabli dans la zone, mais les 2 forces belligérantes y sont toujours en alerte, disent nos sources sur place. La première ministre Judith Souminois est attendue ce samedi à Bunia en Ituri. Elle sera accompagnée de plusieurs ministres et parlementaires et pendant son séjour, elle va rencontrer différentes couches de la population pour évaluer l'état de siège instauré depuis plus de 3 ans dans cette province. Selon les attentes des uns, il faut alléger cette mesure exceptionnelle dont l'impact est indéniable dans les entités déjà sécurisées, notamment Aru et Mahagi. Pour d'autres, cette mesure a montré ses limites et doit être levée. Isaac Remo.
La situation sécuritaire s'est nettement améliorée depuis l'instauration de l'état de siège, affirment certains acteurs politiques. Ils citent notamment la restauration de l'autorité de l'état dans plusieurs localités jadis occupées par des groupes armés, surtout dans les territoires des Romo et une partie des Djougou, ce qui a produit comme résultat le retour des milliers de déplacés et la libre circulation des personnes et de leurs biens. Dans les cadres de développement, plus de 50 km de la voirie urbaine asphaltée et la réhabilitation des axes routiers d'intérêt national et provincial. L'un des acteurs politique, Lik Malembe, soutient l'allègement de l'état des sièges à Bunia et dans les territoires d'Aru et Mahagi qui sont totalement pacifiés.
Aujourd'hui, Irumu respire l'air de la paix. Presque tous les déplacés sont en train de gagner l'or. La guerre est presque terminée à Djougou. Ce qui reste maintenant, on laisse aux groupes armés le contrôle des sites miniers.
Pour d'autres, l'état des sièges n'a pas atteint son objectif principal qui est la neutralisation des groupes armés locaux et les ADF qui occupent encore plusieurs villages. Vital Tungu, le président des communautés victimes de la guerre à Ituri.
Depuis l'instauration de l'état de siège en 2021, nous n'avons jamais connu, je dis bien, un seul groupe armé neutralisé. Il y a des entités qu'ils contrôlent jusqu'à l'heure actuelle qui est la levée pure et simple de l'état de siège.
Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Le PDD-RCS, Programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, a besoin de 70 millions de dollars américains pour matérialiser son plan opérationnel provincial au sud Kivu. Un plan opérationnel qui va de 2023 à 2025 et annoncé au cours du forum qui a regroupé hier à Bukavu toutes les parties prenantes de ce programme de désarmement. Ce fonds est attendu du gouvernement pour une partie et pour l'autre des partenaires de la famille onusienne. Jean Kassami nous en dit plus.
Un forum regroupant les parties prenantes au programme de stabilisation du Sud Kivu après le désengagement de la MONUSCO dans cette province s'est tenu à Bukavu hier vendredi. Le gouvernement était représenté par le coordonnateur national du PDDRCS, les Nations Unies par le coordonnateur principal DDR et la société civile par les organisations non gouvernementales. La réunion de Bukavu a permis aux parties prenantes à la stabilisation du Sud Kivu d'échanger clairement sur les besoins réels du programme en vue de converger dans la même direction. tous sont tombés unanimes sur la mise en place des activités pouvant offrir des emplois durables aux démobilisés, voire aux communautés locales. La MONUSCO tient à léguer ses compétences à l'État congolais pendant sa phase de transition au Sud Kivu afin de maintenir la stabilité pour laquelle elle a œuvré durant plus de 20 ans. Les échanges se poursuivent ce samedi. Des recommandations pratiques vont être dégagées. Jean Kasami, Bukavu, Radio Okapi.
Nous en parlions dans le sommaire. Quelques projets de loi de ratification visant notamment à renforcer la mobilisation des ressources publiques, à lutter contre l'évasion fiscale et à financer des projets de développement dans les secteurs prioritaires de l'agriculture, des infrastructures et de la santé ont été soumis hier à l'Assemblée nationale. Le ministre des Finances qui les a défendus justifie ces initiatives par sa détermination à renflouer les caisses de l'État pour garantir le financement du programme d'action du gouvernement PAG. Parmi les projets présentés, deux concernent des instruments multilatéraux fiscaux récemment signés par la RDC. Les cinq autres projets de loi concernent des accords de financement estimés à plus de 900 millions de dollars pour soutenir des initiatives dans des secteurs stratégiques comme les infrastructures, l'emploi de jeunes, la santé et l'éducation. Doudou Fouamba est au micro de Michel Kifindangoy.
Vous allez constater que plusieurs multinationales utilisent des systèmes sophistiqués de la fiscalité pour échapper à la base d'imposition et réduire l'assiette. Et le gouvernement a pris l'initiative de ratifier des instruments multilatéraux afin de permettre à notre administration fiscale de mobiliser autant de ressources pour financer les programmes d'action du gouvernement. Nous avons présenté également plusieurs projets de loi de ratification qui concernent le secteur de la transformation agricole parce que Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait émis une requête auprès de la Banque africaine de développement pour obtenir une allocation exceptionnelle dans le secteur de la transformation de l'agriculture. Les derniers textes que nous avons présentés, il s'agit d'un prêt syndiqué entre la République démocratique du Congo et des banques sud-africaines. Un prêt qui tourne autour de 270 millions de dollars avec un délai de remboursement de 10 ans. Il est question d'acquérir des outils et des engins afin de connecter notre pays, construire et moderniser nos routes pour aller dans la perspective de la diversification de notre économie dont nous voulons.
Notez par ailleurs que l'Assemblée nationale a voté hier toujours le projet de loi des finances exercice 2025, moyennant les amendements de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire. Ce vote est intervenu à 3 semaines de la clôture de la session budgétaire de septembre 2024, après l'examen minutieux du projet de loi des finances déposé par le gouvernement. La plénière a donc adopté le rapport de l'Ecofin qui est parvenu à un accroissement du budget de plus de 51 milliards de francs congolais sur l'année 2025, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi des finances de 2024. L'intersyndicale des enseignants du ministère de l'Éducation nationale a appelé hier le gouvernement à prendre des dispositions pour régulariser la paye des enseignants, appel lancé lors de son assemblée générale extraordinaire tenue à Kinshasa. Blaise Ndongala Mayanda.
Au cours de cette rencontre de plus de 3 heures, l'intersyndicale du secteur de l'éducation a évalué les niveaux d'exécution de la paye des enseignants au quatrième trimestre de l'année 2024. Elle a cependant noté des risques imminents du non-paiement des 54 entités en décembre prochain. C'est dans ce cadre que le président de cette organisation syndicale a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions avec l'institution financière pour les œuvres de développement IFOD chargées de la paye des enseignants dans plusieurs coins du pays. Godefroy Matondo.
Dans le souci de préserver la paix sociale dont notre ministère a grandement besoin, l'intersyndicale demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions avec l'IFOD pour que tous les enseignants soient payés au même moment avant le 31 décembre 2024. De solder les 50 000 francs congolais restants conformément aux récentes résolutions de Bibwa.
Pour ces syndicalistes, les entités bénéficiaires de la paye rotative devront chaque fois attendre un mois de plus pour renouer avec la paye 10 mois. L'intersyndicale des enseignants a condamné cette pratique qui non seulement perdure sans solution durable, mais risque de créer des remous sociaux dans les 54 entités qui posent problème.
La COP 29 appartient désormais au passé après la clôture des travaux de Bakou en Azerbaïdjan. Les pays du Sud qui s'attendaient à voir les pays du Nord contribuer efficacement au financement climatique sont un peu déçus malgré le petit avancement qu'ils ont enregistré. Sur 1300 milliards de dollars attendus, ils n'ont obtenu que les engagements de 250 milliards. D'autres détails avec Omer Kabasele, responsable du groupe de travail Climat RED Rénové. Il est joint par Jean Gandou.
Contrairement aux ambitions des pays du Sud qui avaient proposé un montant annuel de 1300 milliards de dollars, les pays du Nord après négociation mettent sur la table la proposition de 250 milliards annuellement, plus ou moins un sixième des ambitions manifestées par les pays du Sud. Un autre élément, c'est le fait que les pays du Sud ne voulaient pas que ces fonds soient considérés comme étant une aide. Et c'est exactement les termes que les pays du Nord ont bien utilisés. Avant ça, nous étions à 100 milliards de dollars annuellement. Et cette fois-ci, 250 milliards, c'est un tout petit pas de tortue que l'humanité vient de marquer par rapport aux engagements sur les financements climatiques. La RDC a vendu l'image réellement d'un pays solution à tous les niveaux, que ce soit sur le plan politique, diplomatique, et même sur les négociations, dans les activités parallèles, la société civile. Tous les délégués, les scientifiques, les chercheurs ont démontré à quel niveau la République démocratique du Congo restait et s'imposait comme un pays solution.
Notons que la COP 30 aura lieu à Belém, au Brésil. Retour au Nord Kivu. Des produits vivriers en provenance de l'étranger inondent les marchés de Goma au détriment des produits locaux. C'est l'une des conséquences logiques, je dirais, de la guerre que connaît la province du Nord Kivu. Toutes les voies d'approvisionnement sont coupées vers Goma. Les agriculteurs en déplacement ont abandonné leurs champs pour se mettre à l'abri dans des sites de déplacés autour de Goma. Et du coup, ce sont des produits vivriers importés qui gagnent du terrain dans les marchés de la ville. Un reportage de Denise Lukeso.
Oignons, poireaux, poivrons, ail, céleri, gingembre, tomates et autres légumes ainsi que des épices et fruits, c'est ce qu'on peut voir étalé à même le sol et sur les étagères de vendeurs et vendeuses du marché des Kaembe notamment. Ces produits pour la plupart proviennent des pays tels que la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda, témoignage de cette vendeuse.
Je suis vendeuse de poivrons en provenance du Rwanda. Beaucoup de produits vivriers proviennent du Rwanda, de la Tanzanie, qu'à l'intérieur de notre pays.
Pour cette grossiste en poivrons, ce sont ces pays exportateurs qui gagnent au détriment de la RDC.
Ce sont des pays étrangers qui bénéficient plus que nous. Nous sommes donc perdants. Les agriculteurs ont fui leur milieu. Les quelques produits des champs qu'on trouve ici sont très chers. Beaucoup de voies d'écoulement restent fermées.
Masisi, Rutshuru, Lubero, territoire qui alimentait la ville de Goma, reste coupé à cause de leur occupation par les rebelles. Le peu de produits des champs qui proviennent de Minova, passant par les lacs, n'arrive pas à couvrir toute la ville de Goma, qui compte actuellement plus ou moins 2 millions d'habitants, sans compter les déplacés. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, l'impraticabilité de la route Kolwezi-Kindu inquiète même les étudiants. 5 étudiants, en effet, venus de Lubumbashi pour étudier à l'université Mapon au Maniema, ont passé 3 semaines en route pour arriver à Kindu. Mettant leur vie en danger à la recherche d'une bonne qualité de formation, ces étudiants appellent les autorités compétentes à réhabiliter les routes de la RDC pour que les provinces soient en connectivité et pour faciliter les échanges entre elles. De Kindu, Florence Kizalunga les a rencontrés cette semaine.
Ces étudiants partis de la province de Lualaba disent venir à Kindu à la recherche d'une bonne qualité de formation à l'université Mapon. Chacun d'eux a pu payer 400 dollars comme frais de transport pour une distance évaluée à plus de 1000 kilomètres, déclare Gilles Ousseni Massoudi.
Arrivé à Kindu, il y a eu tant de difficultés qu'on a pu passer. Les difficultés étaient dues à la route et aussi à beaucoup de choses qu'on a rencontrées comme des barrières et autres, mais jusque-là, l'état de la route n'est pas bon. Avec la moto, c'est mieux, mais avec la voiture, on peut faire même 2 mois, je pense, en route. Nous, on a fait 3 semaines en route pour venir ici. Mais c'était pas quand même un cadeau. On a pu souffrir. Venir ici à Kindu, c'est uniquement parce que l'université de Matata Mponyo est là et qu'on puisse nous faciliter la route. Pour arriver ici, on a payé une histoire à 400 dollars.
Son collègue Shimba Borido Israël fait savoir que cette situation empêche plusieurs d'entre eux de se déplacer. Les autres prennent les risques de passer par l'Ouganda.
Nous avons fait à peu près 1700 kilomètres pour arriver à Mapon. C'est pour aussi la qualité de l'enseignement parce qu'à Mapon, la technologie est plus avancée par rapport à dans d'autres universités dans nos provinces. Nous demandons aux autorités de nous aider à bien réhabiliter les routes parce qu'on était nombreux. Il y a eu de nos amis qui sont restés à Lubumbashi parce que c'était parcouru de Lubumbashi à Kindu à moto. C'était pas facile. Ouais, il y a d'autres qui sont passés par Uganda, d'autres par Goma, Bukavu. Mais nous plaidons que les autorités puissent réhabiliter les routes pour nous faciliter la tâche.
De son côté, Jérémy Banza plaide auprès des autorités la réhabilitation de cette route.
Je pouvais le dire de pouvoir révisionner la route parce que ce n'est pas normal qu'une route principale pourrait être avec des difficultés pour arriver à Kindu. Il y a eu des accidents, il y a eu plusieurs choses dans la route. Je pouvais dire à l'État de pouvoir réhabiliter cette route, la route vers Kindu, parce que ce n'est pas normal que la route principale puisse être comme ça. Ce qui m'a intéressé venir à Kindu, c'est par d'abord la formation des Mapons.
Signalons que ces étudiants sont arrivés à Kindu la nuit du lundi dernier. Kindu, Florence Kizalunga.
Actualité internationale.
Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a tenu hier une réunion d'urgence avec de hauts responsables sécuritaires après une fusillade jeudi au domicile de l'ex-chef des services de renseignement à Kolkour, limogé il y a près de 2 mois. À la suite de cette réunion, Lul Roy Kwang, porte-parole des forces de défense du peuple sud-soudanais, a assuré que l'incident s'était produit après un malentendu entre les forces de sécurité déployées pour le protéger lors d'une tentative de déplacement de Monsieur Kiir. Monsieur Kiir et son successeurs ont même participé à cette réunion d'urgence, a assuré le bureau du chef de l'État du Soudan du Sud.
L'invité.
La population de la province de la Tchopo est appelée à pêcher, à cultiver et à vivre dans la paix pour espérer le développement de cette province. Cet appel est du président de l'Assemblée provinciale de cette province à l'issue de la 2e édition du comité de coordination des sites Kokosi élargi Maniema Sankuru Tchopo qui s'est clôturé le lundi 18 novembre dernier à Kindu. Ces assises organisées par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, avaient pour objectif, entre autres, de permettre à l'équipe dirigeante du parc national de la Lomami de renforcer ces mesures de cohabitation pacifique entre les gestionnaires des sites et les communautés riveraines. Le député provincial et président de l'organe délibérant de la Tchopo, Mathéus Kanga, s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Monsieur le député Mathéus Kanga, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de participer à ces assises de ICCN où le parc national de la Lomami passe aussi par la province de la Tchopo. Selon vous, qu'est-ce qui devait être fait pour qu'il y ait bonne gouvernance du parc national de la Lomami?
Bon, il faut dire que le parc national de la Lomami ne passe pas seulement par la province de la Tchopo. La province de la Tchopo couvre plus de 80% du parc national de la Lomami. Donc, quand on parle du parc national de la Lomami, premièrement, on voit la Tchopo qui a la plus grande étendue de ces parcs. Alors, par rapport la bonne gouvernance, je crois que déjà avec les assises ici, nous avons tous compris que les gestionnaires de ces parcs étaient pour une gestion collective, avec la participation de toutes ces provinces. Voilà pourquoi dans le cadre de cette réunion du comité de coordination des sites, toutes les provinces ont été concernées, la Tchopo, le Maniema, y compris même les Sankuru, qui regorgent une partie de la zone tampon. Certes, pas la partie intégrale du parc, mais la zone tampon. Et dans tout ça, le parc a quand même voulu les intéresser aussi. Ça voudrait dire vraiment que les gestionnaires du parc sont très ouverts pour faire participer tout le monde. C'est déjà un signal positif vers la bonne gouvernance de ces parcs.
Du côté de la Tchopo, il y a toujours eu des cas d'insécurité. Est-ce que vous avez pris des mesures cette fois-ci dans cette rencontre pour que ce genre d'insécurité ne puisse pas s'enregistrer?
Bon, je crois que c'est parmi les points qui ont été traités. Et nous avons même plaidé, quand nous avons pu plaider pour la province de la Tchopo qui a pu rater beaucoup d'opportunités suite au problème de sécurité. Vu que la province de la Tchopo, à un moment donné, a connu le conflit communautaire Lengo-Lambole, entraînant ainsi une recrudescence d'insécurité dans la zone du parc qui est située dans la province de la Tchopo. Alors, c'est ainsi que nous avons pris cet engagement d'aller sensibiliser les différentes communautés de la province de la Tchopo avec les différents députés provinciaux. Non seulement les députés provinciaux, mais aussi, en ma qualité de président de l'Assemblée provinciale, je vais, de ce fait-là aussi, mobiliser le gouvernement provincial pour qu'à son tour, il puisse mobiliser le comité provincial de sécurité afin de pouvoir accompagner le parc national de la Lomami dans la réalisation ses objectifs, mais aussi pour que la province de la Tchopo puisse réellement tirer profit de ces parcs.
Vous pensez qu'avec les conclusions ici de cette rencontre, une fois mise en application, sera avantageux pour le parc national de la Lomami et la province de la Tchopo?
Oui, nous osons croire. Nous osons croire parce que nous avons eu amené également des plaidoyers par la même occasion. Nous pensons qu'au vu de l'état d'esprit que nous avons rencontré sur place ici, dans ces assises, ça nous donne foi. Ça nous pousse à croire qu'il y a lieu d'espérer, il y a lieu de croire à ce qu'il y aura des retombées positives pour l'année 2025, parce que vous savez qu'on est également là pour adopter les plans opérationnels 2025 et que toutes les entités concernées par les parcs ont été prises en compte. Nous croyons que notre province également tirera au maximum profit de ces parcs et pourquoi pas à l'issue de l'année 2025 voir les lignes bouger en vue de pouvoir faire adhérer la population de la Tchopo dans l'état d'esprit de ces parcs et faire adhérer également la population de la Tchopo dans les initiatives qui sont organisées par les parcs. Comme élite du peuple, notre rôle, c'est de pouvoir notamment conscientiser la population. Et donc, comme je l'ai dit, nous avons raté beaucoup de projets du parc national de la Lomami et de l'ICSN suite à l'insécurité. Donc, c'est le moment pour nous de nous dire que nous ne devons plus continuer sur le même chemin et de prêcher la paix. C'est ce que nous allons faire avec les élites des deux territoires, d'Ubundi et d'Opala, pour aller sensibiliser les deux communautés afin qu'elles puissent fumer les calumets de la paix.
Monsieur le Président, vous vous engagez à sensibiliser la communauté. Seule la sensibilisation suffit pour qu'il y ait un retour de paix parce que ce sont les intérêts qui font en sorte qu'il y ait conflit d'intérêts et tout dans cette zone.
Non, ce ne sera pas seulement la sensibilisation. Je crois que l'ICSN avec le Parc national de la Lomami se sont également engagés à entreprendre des actions sur le terrain pour attirer la communauté, pour faire comprendre à la communauté que le parc est là pour également l'intérêt de la communauté. Mais au-delà de ça, comme législateur, nous avons également le devoir de mettre sur pied des textes, d'adopter des textes qui vont aller dans le sens de préserver l'environnement, de préserver, de protéger les parcs nationaux de la Lomami, et puis aussi en préservant également les intérêts de nos différentes communautés, les démarches des pairs.
La guerre ne construit pas. Qu'est-ce que vous dites à votre population?
À la population de pouvoir converger vers la paix, parce qu'il y a un temps pour tout. On sait qu'il est un moment. Il est maintenant temps que nous puissions nous mettre ensemble pour pouvoir reconstruire notre province, et cela en attirant les investisseurs qui vont venir. Vous savez, l'argent n'aime pas les bruits. Si nous voulons assez que les partenaires continuent de nous fuir, il faudrait que nous continuions de nous battre. Et dans l'entretemps, les autres sont en train d'avancer, sont de tirer profit, notamment de ces parcs, pendant que nous continuons de nous lamenter.
Monsieur le député Mateus Kanga, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Merci aussi à vous tous d'avoir suivi ce journal qui arrive à sa fin. Un journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde par Alain Goy. À la coordination, c'était Jacques-Yves Molima et la supervision est assurée par Alain Hurong. Restez fidèles à Radio Okapi car ses programmes de ce samedi continuent.